Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce deuxième numéro de Bonne Pioche, l'émission thématique et culturelle consacrée aux jeux de société. Aujourd'hui, je vais vous parler des titres de nos chers jeux, de leurs noms si vous préférez. Et avant d'aller plus loin, il faut d'ores et déjà se poser la question, pourquoi nommer un jeu ? La réponse en images, préférez-vous que je vous demande de sortir de votre armoire un... Le jeu où l'on incarne l'une des sept cités abritant une merveille du monde antique, où l'on doit avoir le plus de points de victoire pour remporter la partie, points de victoire que l'on gagne grâce à différentes actions de différentes cartes de différentes couleurs, cartes que l'on peut jouer que si on a les ressources adéquates ou grâce aux anciennes cartes et les chaînes de gratuité qu'elles procurent. Ou 2, le Seven Wonders d'Antoine Bozza. Ceux qui ont coché la 1 sont invités à réécouter l'énoncé. Car oui, la bonne réponse est la 2. Et de là découle la raison d'exister du titre. Celui-ci constitue une étiquette, une courte étiquette qui identifie le jeu et permet ainsi de s'y référer de manière concise, ce qui évite les pertes de temps, selon un syntagme reconnu de tous, ce qui évite les incompréhensions. Mais quelle forme a ce nom concrètement ? Il s'agit d'une formule comportant entre 1 et 10 mots. Après, il y en a pour tous les goûts en ce qui concerne la longueur, du monosyllabique Go au tétradécasyllabique Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, de Nate French. En ce qui concerne la structure grammaticale, car bien que la plupart soient des groupes nominaux, on a quelques titres-phrases, comme le « Time's up » de Peter Sarrett, donc « Le temps est écoulé » en français, ou la lettre initiale. Tenez, on peut même faire un abécédaire. Tain, vous connaissiez l'alphabet militaire de l'OTAN, Alpha, Bravo, Romero. Le code Morse, bip, 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 bip. Voici maintenant l'abécédaire ludique. Avalon, Blocus, Citadel, Dixit, Échec, Fantasy, Go, Horror of Arkham, Hill of Skye, Jungle Speed, King of Tokyo, Loup-garou nuit, Mytho, Notre-Dame, Orbis, Pandémie, Hypergagne, Richesse du Monde, Small World, Time's Up, Uno, Voyage en France, Wasabi, X-Wing, Yam, Zebulon. Ouf ! Le titre peut même contenir un jeu de mots. C'est le cas du Hypergagne de Stephen Glenn, où l'homonymie entre la paire de cartes et le verbe perdre à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif crée un titre faussement oxymorique. Au vu de la définition que j'ai donnée, on pourrait croire naïvement que cette étiquette, ce label, est immuable, qu'elle est donnée à la création du jeu par l'auteur et qu'à partir de là, elle est gravée dans le marbre. Que nenni ! Et c'est là le point central de cet épisode, je vais vous exposer quelques cas où l'on observe des fluctuations autour du titre d'un jeu. Premier cas, l'auteur, lors d'une réédition de son jeu, peut choisir de changer le titre. C'est le cas du mythique jeu de Klaus Teuber. Si vous l'avez découvert lors de sa création dans les années 90, vous allez vous écrier « Ah ! Il est en train de parler des colons de Catan !» Alors que si, comme moi, vous voulez être procuré dans l'année 2010, vous allez vous exclamer « Bien sûr, est-il en train de parler de Catan ?» Alors les colons de Catan, Catan, cette histoire, bah, vous l'aurez compris, lors de la réédition, Klaus Teuber a raccourci le titre. Il est à noter au passage que j'invite très fortement certains jeux à changer de nom pour la bonne et simple raison qu'ils partagent celui-ci avec un jeu beaucoup plus connu qu'eux, créant, dès que j'en parle, une confusion. Si je vous évoque le jeu du président, vous aurez à l'esprit ce jeu de cartes auquel on jouait tous au lycée, où il est question de Trouduc et de Révolution. Mais quand vous m'en parlez à moi, j'ai à la tête un jeu de plateau de 2004 d'Olivier Lejeune dans lequel les joueurs incarnent des candidats à la présidentielle qui doivent rallier à leur cause les départements de l'Hexagone. Et je peux vous dire que le deuxième est bien mieux que le premier. Alors, s'il te plaît, Olivier Lejeune, change le nom de ton jeu. Deuxième cas. Il arrive que le nom officiel soit supplanté par un nom d'usage forgé par les joueurs indépendamment de la volonté du créateur. Je suis sûr que ça vous avait manqué. Alors voici une anecdote tirée de mon expérience personnelle. Quand j'étais un jeune première encore féru de maths, j'ai proposé à quelques membres de ma classe de faire un loup-garou de tierce lieu. Ils me répondirent « Oui, vas-y Étienne, montre-nous ce nouveau jeu. » Alors je les ai regardés un peu interloqués, stupéfaits que ce jeu cultissime n'ait franchi les octrois de Versailles. Je répondis « Comment ? Vous ne connaissez pas ce jeu où on incarne soit un loup-garou, soit un villageois, le but des loups-garous étant de tuer tous les villageois, le but des villageois étant de tuer tous les loups-garous, les loups-garous se réveillent la nuit pour éliminer un villageois, les villageois votent le jour pour lyncher un de leurs membres, les loups-garous se font passer pour des villageois et certains villageois ne sont pas des simples villageois mais ont des pouvoirs. Hashtag à quoi sert un titre déjà ? » Et là, ils me répondirent « Ah, oh, mais tu parles du jeu du loup-garou ?» Eh oui, ce jeu populaire, s'il en est, a subi un raccourcissement vernaculaire. Mais si vous le cherchez en magasin, il sera toujours commercialisé sous le nom de Loup-garou de tierce lieu. troisième cas, l'eau de la traducción, comme on dit dans la langue de Cervantes. Et oui, je sais que c'est terrible, chers auditeurs, mais certains, pour ne pas dire la plupart de nos jeux chéris, sont nés de l'esprit de personnes non francophones, ce qui conduit généralement à un titre non français. Mais si ce jeu rencontre le succès et qu'il s'exporte à l'international, qu'advient-il de son titre en France ? Il y a sur cette problématique deux écoles. Première école, garder le titre. C'est ce qu'ont choisi les traducteurs pour Tintin, le retour, le Time's Up de Peter Sarret. Oui, j'aime beaucoup le Time's Up, je risque d'en parler souvent dans cette émission. Deuxième école, l'école à la québécoise, traduire le titre. Ainsi, le Ticket to Ride de Alan Harmon devient, dans l'Hexagone, les aventuriers du rail. Ce qui peut parfois conduire à des bizarreries de traduction. C'est le cas du village d'Inka et Marcus Brandt, donc des auteurs de jeux allemands, qui devient outre-Rhin Descendance. Alors, il faudrait peut-être dire au traducteur que le mot village existe en français. Puisqu'on parle de bizarrerie de langue, je me permets une petite remarque. La langue du titre d'un jeu à sa sortie n'a parfois aucun lien avec la langue maternelle du créateur. Vous pensez sans doute que j'évoque le Dixit de Jean-Louis Roubira, dont on a parlé la dernière fois, avec son titre en latin. Oui, mais pas que, restons sur la langue vivante. Saviez-vous que le Codenames, donc titre anglais, est né de l'esprit de l'auteur tchèque Vlada Ravlati ? Que le titre japonais Takenoko était né de l'auteur français Antoine Bozza, là où le titre français Notre-Dame est né de l'esprit d'un auteur allemand, Stefan Feld. Mais encore plus bizarre quand problème de traduction et problème de langue interfèrent. Julian Courtland Smith, un auteur anglais, a sorti un jeu, Escape from Atlantis, qui a été traduit en français par The Island. Alors, traduire de l'anglais par de l'anglais, tu peux pas tester les français. Quatrième cas, même une fois que le titre est fixé, sa prononciation peut faire débat. Ainsi, entend-on parler du Cloudou et du Cluedo des époux Anthony et Elva Pratt, du Mysterium et du Mysterium d'Oleksandr Nevsky et d'Oleg Sidorenko, du Scrabble et du Scrabble d'Alfred Mosher-Butz, duo de titres, vous l'aurez compris, qui désignent le même jeu, mais au sujet desquels la communauté ludique ne se fixera peut-être jamais. Voilà, s'achève mon deuxième numéro de Bonne Pioche. J'espère que vous regarderez à l'avenir différemment les noms de vos jeux. Avant de nous quitter, j'ai un message à faire passer. Si quelqu'un a compris pourquoi le jeu de Guilhem Dubricon, où l'on doit se débarrasser de tous ses dés à l'aide de cartes ornées de petits diablotins, le wasabi, porte le nom d'un condiment épicé japonais tiré d'un cousin du Réfort, qu'il n'hésite pas à m'envoyer la réponse. En attendant, je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro. Merci de votre écoute et portez-vous bien.